Bonjour à tous. Les commémorations du 8 mai 45, Emmanuel Macron a présidé ce matin les cérémonies du 77e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une commémoration dans le respect de l'agenda républicain et dans un contexte particulier de guerre en Ukraine. L'actualité politique et les remous continuent au Parti socialiste après l'accord avec la France insoumise. Lionel Jospin, l'ancien Premier ministre, a pris la parole ce matin à Paris aux côtés d'une candidate socialiste aux législatives. L'Ukraine au menu d'un G7 aujourd'hui par visioconférence. Sur le terrain, une frappe a détruit une école dans l'est du pays. Il y a 60 disparus. En Israël, la police annonce l'arrestation de deux suspects palestiniens recherchés depuis l'attentat à la hache jeudi dernier à Elad. Et puis, nous reviendrons également sur la victoire hier soir de Nantes en finale de la Coupe de France de football face à Nice et la fête qui se prépare. Invité de ce journal, Ali Robou, adjoint au sport à la mairie de Nantes. La météo, variable avec quelques averses orageuses dans le sud-est. Jean-Michel Golinski à la fin de ce journal.
France Inter.
Les commémorations du 8 mai 45 au lendemain de son investiture pour un second mandat, Emmanuel Macron a ravivé ce matin la flamme du soldat inconnu et présidé ces commémorations du 77e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale dans un contexte particulier de la guerre en Ukraine. Un président également toujours silencieux sur la suite, la nomination du Premier ministre, la formation du gouvernement, mais qui respecte à la lettre le protocole et l'agenda républicain, Maxence Lambrecq.
Emmanuel Macron dans son costume de président, recueilli au pied de la statue du général de Gaulle, place Clémenceau, remontant les Champs-Élysées avec la grande escorte de la garde républicaine, ravivant la flamme sur la tombe du soldat inconnu. Emmanuel Macron salue ensuite le comité de la flamme.
Ça va, monsieur le président ?
Très heureux de vous retrouver, dit-il à chacun.
Bah oui, moi aussi. Merci d'être là. On sera toujours là, monsieur le président. Même quand ça tempête, vous êtes là.
Oui.
Je n'oublie rien.
Référence au saccage de l'Arc de Triomphe à l'époque des Gilets jaunes.
Bonjour, mesdames, messieurs les ministres.
Le gouvernement au grand complet, tout sourire dans la tribune, pour beaucoup leur dernière cérémonie au premier rang. Emmanuel Macron salue François Hollande, qui plaisante sur la victoire du FC Nantes hier soir.
Mais c'est comme si Nantes a gagné, ça relance le poids de la Bretagne.
Un peu plus loin, des jeunes du service national universel.
Merci d'être engagé dans la CNUC. Très bien, on va accélérer tout ça maintenant là. Bonjour les enfants, vous êtes en quelle classe?
Avant qu'il ne reparte, un harki en fauteuil l'interpelle.
Ne vous inquiétez pas.
Excusez-moi de vous parler de ça.
Le travail, vous le savez.
La continuité fil rouge de cette matinée, continuer le devoir de mémoire et continuer de prendre son temps avant d'installer son nouveau gouvernement.
Maxence Lambrecq, des commémorations suivies et vécues également par le public présent sur les Champs-Élysées et près de l'Arc de Triomphe. Bonjour Sandrine Etouandègue.
Bonjour Frédéric, bonjour à tous.
Et il y avait effectivement du monde ce dimanche matin pour suivre ces cérémonies.
Oui, quelques personnes le long des Champs-Élysées, pas non plus la foule des grands jours. Champs-Élysées qu'a remonté Emmanuel Macron, escorté par la garde républicaine et qui a salué sur son passage ses badauds, ses curieux, ses touristes parfois qui étaient rassemblés derrière les barrières. Christiane et son mari ont tenu à assister à cette cérémonie. Ils sont tous les deux à la retraite.
On vient de temps en temps, mais cette année, ça nous paraissait plus nécessaire que d'habitude. Parce qu'il y a la guerre, il fait un peu frais, mais bon, c'est pour l'armistice, donc c'est pour ceux qui sont morts, pour nous, pour qu'on soit libres, comme certains peuples actuellement ne le sont pas. Donc, il faut se souvenir de ceux qui ont travaillé, œuvré pour nous.
Ce 77e anniversaire de la victoire des Alliés contre l'Allemagne nazie a aussi une résonance particulière pour Greg, un étudiant lyonnais de passage à Paris.
Au vu du contexte actuel avec l'Ukraine et la Russie, effectivement, je pense que le devoir de mémoire est de se rappeler de ce qui s'est passé pour ne pas reproduire les mêmes erreurs du passé. L'actualité fait écho à un conflit aux portes de l'Europe, ça fait longtemps que ce n'était pas arrivé depuis justement la Seconde Guerre mondiale, donc c'est pour ça que je pense qu'il y a d'autant plus de symbolique dans cette commémoration. Que les années précédentes.
Et il salue la volonté d'Emmanuel Macron, réinvesti hier, de placer l'Europe au cœur de son second mandat, dit-il. Le président qui doit s'exprimer demain devant le Parlement européen à Strasbourg, avant de se rendre ensuite à Berlin pour son premier déplacement à l'étranger.
Sandrine Etohandeg, merci, avec Alexandre Abergel. La politique ce dimanche et après un samedi hautement politique entre cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron et lancement de la campagne pour les élections législatives à gauche et à droite, on pouvait s'attendre à un dimanche plus calme, mais c'est presque le cas. L'accord à gauche est toujours contesté. Dans une tribune publiée dans le journal Le Monde, trois anciens élus écologistes historiques, Jean-Paul Bessé, Daniel Cohn-Bendit et José Bové, dénoncent l'accord des Verts avec la France insoumise qui est selon eux une escroquerie. Jean-Luc Mélenchon était l'invité de Question Politique sur France Inter juste avant ce journal. Il explique qu'au contraire, l'union à gauche va permettre de ressouder la société, y compris sur les questions écologiques.
Nous sommes au pied du mur de la catastrophe écologique qui s'avance devant nous et de la catastrophe sociale. Un pays comme la France ne peut pas être fracturé socialement, comme il l'est même davantage, sans que ce soit un grand risque de cohésion. Et nous le voyons bien à travers l'obstination de l'extrême droite à montrer du doigt des boucs émissaires dans telle ou telle religion ou telle communauté. Donc, c'est ça qu'il va falloir dépasser. Il n'y a pas que des gens de gauche qui vont être d'accord avec ça. Autrefois, on a eu une droite gaulliste qui avait l'État, qui croyait au plan, c'est même eux qui ont installé ça. Alors, où ils sont passés, ceux-là? Ils sont tous devenus libéraux. On a, à la campagne présidentielle, c'est l'impression qu'on a eue, que c'était tous des libéraux. Eh bien, tant pis, la case libre, c'est moi qui l'occupe.
Jean-Luc Mélenchon avec Thomas Snegaroff. Et au Parti Socialiste, cet accord à gauche sous la bannière de la nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale continue de faire de gros remous. Lionel Jospin entre dans le débat et le combat politique. L'ancien Premier ministre s'est exprimé ce matin à Paris aux côtés d'une députée socialiste sortante, Lamia El Haraj, et qui fait les frais d'un arbitrage au profit de la France Insoumise. Lionel Jospin.
J'ai toujours été pour l'union de la gauche, tout récemment. Au lendemain de la dernière élection présidentielle, j'ai estimé qu'il serait sûrement positif pour le PS de participer à un accord électoral de toute la gauche. Or, un accord a été signé par les insoumis, les écologistes, le Parti communiste et le Parti socialiste. Je ne vais pas participer à toutes ces discussions, mais je me distingue des socialistes qui ont exprimé leur opposition. Je suis favorable à l'accord. Je vois aussi qu'il éveille un certain espoir chez les électeurs de gauche. Or, je soutiens une candidate qui n'a pas été intégrée à ce jour à l'accord. Ce paradoxe s'explique tout simplement par le refus d'une injustice. La solution juste et simple serait de réintégrer Lamia El Haraj dans l'accord national.
Lionel Jospin avec Yann Gallick. Et pour compléter la page politique de ce dimanche, on ne l'avait plus entendu depuis sa défaite il y a 15 jours. Marine Le Pen était ce matin à Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais, où elle est candidate du Rassemblement National pour les législatives. Marine Le Pen s'est présentée comme première opposante au président réélu, qualifiant Jean-Luc Mélenchon de fou du roi pour avoir, selon elle, favorisé la réélection d'Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon ne peut donc pas, selon Marine Le Pen, se mettre dans la posture de l'opposant. L'actualité à l'étranger avec d'abord en Israël l'arrestation ce matin des deux suspects palestiniens de l'attentat d'El Had, l'attaque à la hache perpétrée jeudi dernier le jour du 74e anniversaire de la création de l'État d'Israël avait fait 3 morts et 4 blessés. Une chasse à l'homme avait été lancée pour retrouver les auteurs de l'attentat. Sur place à Jérusalem, Frédéric Mettezo.
L'armée israélienne, la police et le Shabak, les services de renseignement intérieur, ont retrouvé les deux terroristes, fatigués et hagards, dans une carrière en forêt près d'El Had. Les deux hommes de 19 et 20 ans, originaires de Jenin en Cisjordanie occupée, n'avaient donc pas quitté Israël. Leur interrogatoire devra déterminer s'ils ont agi sur ordre d'un mouvement palestinien donné ou bien de leur propre initiative sans recevoir d'instructions, comme cela a été le cas pour plusieurs attentats commis en mars et en avril en Israël. Ont-ils été au minimum influencés par le discours du chef du Hamas à Gaza? Dimanche dernier, en effet, Yahya Sinwar avait appelé, je cite, à tuer des juifs à la hache ou au pistolet pour dénoncer les affrontements à la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem. Pour l'instant, les médias israéliens affirment que l'armée ne souhaite pas d'assassinat ciblé contre lui, car cela ne ferait qu'envenimer la situation. Jérusalem, Frédéric Mettezo, France Inter.
Le Sinn Féin devient donc la première force politique d'Irlande du Nord après sa victoire aux élections législatives et la vice-présidente de ce parti nationaliste, Michelle O'Neill, est en passe de devenir la nouvelle première ministre d'Irlande du Nord. La victoire du Sinn Féin
constitue un basculement historique. Le parti est favorable à la réunification de l'Irlande, ce qui risque de raviver un débat très sensible au Royaume-Uni. Correspondance à Londres, Richard Place.
Le Sinn Féin n'avance pas masqué. La réunification, c'est sa raison d'être. Même si le mouvement nationaliste a fait campagne sur les problèmes du quotidien, il a bien répété qu'il voulait un référendum sur le sujet. Il a même fixé un délai de 5 ans pour l'organiser. À peine la victoire proclamée, Michelle O'Neill, la future première ministre, a indiqué que les discussions avaient déjà commencé dans son camp.
J'encourage ceux qui ne partagent pas cet avis à participer aux échanges. Ayons un débat sain sur notre avenir, à quoi il doit ressembler.
Organiser un tel référendum ne pourra pas se faire sans l'assentiment de Londres. Le gouvernement britannique reconnaît bien sûr la victoire du Sinn Féin, mais pas avec une majorité absolue, précise Dominic Raab, le premier ministre adjoint sur Sky News.
58% des personnes ont voté pour les partis qui soutiennent l'Union. Voilà le message des gens en Irlande du Nord.
Quant au rival historique du Sinn Féin, le mouvement unioniste, il n'aborde même pas cette question aujourd'hui. Il refuse pour l'heure de participer à un gouvernement, comme la Constitution l'impose, tant que le protocole de sortie de l'Europe n'est pas renégocié. Londres, Richard Place, France Inter.
La guerre en Ukraine et le président ukrainien Zelensky doit participer aujourd'hui à une réunion du G7 par visioconférence. Une réunion organisée le 8 mai, date historique de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe et à la veille des commémorations à Moscou de la victoire contre l'Allemagne. C'est le 9 mai. Depuis hier, tous les civils, femmes, enfants et personnes âgées ont été évacués de l'usine d'Azovstal à Marioupol et Kiev redoute maintenant un assaut russe contre les derniers combattants à Marioupol et cela avant le 9 mai, selon un conseiller du président Zelensky. Par ailleurs, ce matin, les autorités ukrainiennes annoncent qu'une école a été bombardée dans l'est du pays. 60 personnes sont portées disparues. Et à la veille des célébrations russes du 9 mai, l'Ukraine fait son propre travail de mémoire et documente en direct cette guerre imposée par Moscou. Une exposition inédite est inaugurée aujourd'hui à Kiev. Elle rassemble les objets retrouvés après le passage des occupants russes tout autour de la capitale. Nos envoyés spéciaux, Agathe Mahué et Arthur Gerbeau, ont ainsi visité en exclusivité ce musée de la guerre en temps réel.
C'est un impressionnant débris d'hélicoptère russe abattu au début de la guerre par un missile ukrainien qui vous accueille au seuil du musée.
Boucha, Hostomel, Irpin.
Tous les objets que Yuri Savchuk a réunis ont été ramassés avec l'autorisation de l'armée dans les champs de Boucha, Irpin.
First museum in the world.
On est le premier musée au monde à proposer une exposition sur la guerre en temps réel.
À l'intérieur, une soixantaine de paires de bottes ayant appartenu à l'ennemi qui dessine au sol une grande étoile rouge, et puis des documents.
Différents papiers d'identité, des cartes militaires, cartes de vétérans, des cartes bancaires aussi.
Chiffon à la main, le personnel fait briller les vitrines à quelques heures de l'ouverture, et la date de cette inauguration ne doit rien au hasard.
Commémorer le 8 mai plutôt que le 9, c'est un symbole fort pour nous, les Ukrainiens. Une façon de se défaire de l'idéologie russe.
Au sous-sol, aussi impressionnante reconstitution, la lumière s'éteint. On distingue dans le noir des matelas, des couvertures, de quoi survivre pendant des semaines, comme l'ont fait les habitants de Hostomel. Yuri Savchuk a baptisé son exposition « L'Ukraine crucifiée » et c'est une vraie page d'histoire au présent.
Agathe Mahué et Arthur Gerbeau, nos envoyés spéciaux à Kiev en Ukraine. Direction Nantes. Nantes qui retrouve le bonheur après la victoire du FC Nantes hier soir face à Nice en finale de la Coupe de France de football. Victoire 1-0 et une explosion de joie et de confettis au Stade de France. Nantes remporte la Coupe de France pour la quatrième fois, 21 ans après son dernier sacre. Invité de ce journal, l'un des tout premiers supporters du FC Nantes, Ali Rebou, adjoint délégué au sport à la mairie de Nantes. Bonjour Ali Rebou.
Bonjour.
Alors on dit que le FC Nantes a gagné hier soir à la fois sur le terrain et dans les tribunes, et vous étiez dans les tribunes hier soir.
Oui, en effet, tout en étant extrêmement humble, on peut dire que la bataille des tribunes a été largement remportée par les Nantais, parce qu'ils étaient beaucoup plus nombreux que les Niçois. Il y avait quasiment deux tiers du stade qui était acquis aux couleurs du FC Nantes, et en plus ils ont mis une ambiance exceptionnelle, donc... La bataille des tribunes avait été, en effet, avant celle du terrain, gagnée par nos supporters.
Alors, tous les supporters retournent à Nantes pour cet après-midi. Les festivités vont débuter chez vous à Nantes à 17h, je crois. Qu'est-ce qui sera prévu? La coupe va bien sûr être présentée au public, j'imagine.
Oui, il y aura donc un rendez-vous à 17h dans Nantes, hein, donc pour une présentation de la coupe aux différents supporters, à tous ceux qui sont amoureux du FC Nantes. Donc ça serait une opportunité de pouvoir avoir un échange direct avec les joueurs, et je pense que aussi bien les Nantais sont extrêmement impatients, mais je pense que les joueurs ont aussi cette volonté de pouvoir partager cette communion et cette pièce avec l'ensemble des Nantais.
Allez, Rebouche, c'est une victoire qui, dont Nantes avait besoin, comme plusieurs villes, j'imagine, aussi en France, mais qui, pour Nantes, redonne en tout cas le moral.
Ah oui, surtout dans le contexte actuel. Hein, la dernière année, les deux dernières années ont été extrêmement compliquées, hein, entre la crise du Covid, entre la guerre mondiale, entre un contexte qui est pas très joyeux. Je pense que le sport, et le football en particulier, est capable de nous donner des émotions partagées. Je pense que ça fait du bien à tout le monde de pouvoir célébrer une victoire et surtout partager des émotions collectives.
La victoire d'hier soir est inoubliable pour ceux qui l'ont vécu. Alors vous l'avez vécu, vous, au milieu des supporters. Quelle était leur réaction au-delà de la joie?
Il y avait un côté un peu surréaliste. On avait besoin de se pincer pour se dire qu'on n'était pas en train de rêver, mais plutôt d'arriver à gagner cette coupe. Ça a été un moment, comme je le disais, extrêmement fort. Aussi bien au stade, mais aussi à Nantes. Je regardais en même temps les images qui étaient diffusées sur Nantes. Il y avait une nièce qui était extrêmement fraternelle, populaire. C'était impressionnant, et je pense que des soirées comme celles qu'on a vécues hier sont inoubliables.
Cette coupe va entraîner des retombées très positives pour Nantes, bien sûr, mais pour la région, qu'est-ce que vous attendez de cette victoire, concrètement?
Oui, en effet, cette victoire va apporter d'abord un rayonnement pour Nantes, pour le département, la région, avec tous les effets que ça va avoir aussi. On sait bien que lorsqu'on gagne un titre, ben, on va avoir beaucoup d'enfants qui vont vouloir pratiquer leur sport, et ça, c'est aussi important. Le sport de haut niveau est une locomotive pour le sport amateur, et moi, en tant qu'athlète en sport, je me réjouis que ça va susciter beaucoup de vocations, qu'on va pouvoir capitaliser sur cette victoire de manière à ce qu'on puisse accompagner les clubs à pouvoir accueillir des nouveaux licenciés.
Allez, Rebout, alors, pour les supporters de Nantes, c'est pas toujours de tout repos, hein, d'être supporter du FC Nantes. L'an dernier, on dispute les barrages pour se maintenir. Cette année, on gagne la Coupe de France. Il faut, quoi, avant tout, savourer maintenant?
Oui, c'est ce que j'avais dit, savourons l'instant. On sait bien que les dossiers reviendront à un moment ou à un autre, mais c'était l'union sacrée. Je pense que tout le monde a respecté le jeu, les supporters aussi, et qu'on est revenu un peu, excusez-moi l'expression, de l'enfer au paradis, en moins d'un an, avec ouais. La même équipe. Hein. Comme quoi le sport a aussi cette magie de pouvoir à un instant T revenir d'une situation qu'on n'aurait jamais imaginée l'année dernière. Il y a un an de ça, on était en train de jouer les barrages, on était extrêmement soucieux que le club descende pas en Ligue 2, et un an après, on est là à fêter un titre de champion de France. Bon, comme quoi, vous voyez, hein, le football et le sport peuvent nous apporter des surprises et surtout des émotions.
Merci beaucoup, Ali Rebout, adjoint délégué au sport à la mairie de Nantes. Merci à vous. Le bilan satisfaisant pour le tourisme au printemps. Les vacances de Pâques se terminent pour l'ensemble des élèves de France. Les trois zones auront repris les cours demain. Et côté tourisme, le bilan est même très bon. On commence à remonter la pente après deux années de Covid. Jean-Pierre Masse, président des entreprises du voyage.
Les touristes sont revenus et les touristes sont partis également. Les Français sont partis. Le rythme normal des voyages est quasiment repris. On a vu arriver en France beaucoup de Français qui ont profité des beaux jours des vacances de Pâques, et puis beaucoup d'Européens, beaucoup d'étrangers, des Américains notamment, qui sont venus redécouvrir les charmes de la France. On est sur une trajectoire qui se rapproche des niveaux de 2019, la dernière année avant Covid, avec quand même quelques hauts et quelques bas. On est en retard pour les réservations du mois de juin. On est légèrement en avance pour les réservations des mois de juillet et août par rapport à 2019. Et on constate surtout un panier moyen qui est plus élevé qu'en 2019, nettement plus élevé. C'est-à-dire que les Français qui prennent des vacances ou les touristes qui prennent des vacances en France restent un petit peu plus longtemps et consomment un petit peu plus.
Jean-Pierre Masse sur France Info. C'est le rendez-vous attendu de la Foire de Paris. Les inventions qui défilent au concours Lépine. Le grand gagnant sera connu cet après-midi. Après 12 jours à faire la démonstration de leurs inventions, les candidats vont enfin recevoir leur prix. De quoi changer une vie, espère Aurore Fécard. Elle a essayé de fabriquer, et il fallait y penser, un passe-manche. Faustine Moréane l'a rencontré de France Bleu Paris.
Qui ne s'est jamais battu avec la manche d'un t-shirt qui nous remonte jusqu'au-dessous de bras quand on enfile un pull par-dessus? Grâce à l'invention d'Aurore Fécart dans son petit appartement de Rosny, c'est peut-être bientôt fini.
Quand on est un bébé, c'est super désagréable, mais on ne peut pas encore le dire. Et quand on est une personne âgée, c'est encore plus désagréable et on n'ose plus le dire. Aujourd'hui, l'infirmière, l'aidant, l'accompagnant, elle a cet accessoire dans la poche et en 2 secondes, c'est réglé.
Elle a donc fabriqué une lanière en plastique toute bête.
Vous le placez tout simplement sous la manche, c'est du silicone, donc ça s'agrippe à tout type de matière. Vous faites le tour de la main sans aucune pression sur aucun doigt. On règle à la taille de la personne, c'est pour ça qu'il y a autant de trous. Et ensuite, c'est réglé. On enfile la manche et on passe à autre chose.
Aujourd'hui, Aurore n'est toujours qu'à la phase de prototype, mais le concours Lépine pourrait tout changer.
Si on a un prix, c'est labellisé, donc c'est vraiment très reconnu. Je fais ma pub, j'essaie de me faire connaître, j'essaie de sensibiliser les gens, de les faire parler autour d'eux et surtout de trouver mon fameux investisseur.
Un investisseur pour passer à l'étape suivante, la fabrication à grande échelle et la vente du passe-manche.
Voilà, et le grand gagnant du concours Lépine sera connu cet après-midi. Le temps pour les heures qui viennent et pour demain.
La météo avec Air France. Cet été, ciel dégagé vers plus de 1000 destinations pour partir en toute sérénité avec Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Jean-Michel Golinski.
Un ciel plus dégagé qu'ailleurs cet après-midi sur l'axe Nouvelle-Aquitaine-Limousin-Morvan. De part et d'autre, le temps sera plus variable avec, dans la partie nord, la grisaille matinale qui évolue favorablement vers un ciel plus limpide sur les côtes. À noter des ondées possibles au cœur de l'après-midi du bassin parisien à Champagne-Ardennes. Dans la partie sud, maintien d'un temps instable entre les Alpes, la Corse, l'Auvergne et les Pyrénées, avec des ondées en plaine et des averses plus marquées en montagne et toujours potentiellement orageuses. Les températures de l'après-midi, limitées à 18 degrés sur les côtes de la Manche et sur le Pays Basque, seront plus douces sur les autres régions, entre 21 et 25 en général, avec par exemple 21 à Rouen et Lille, 22 à Brest, Grenoble et Marseille, 24 à Paris, Toulouse, La Rochelle, Dijon et Montélimar, et 25 sur le Roussillon et d'Agen à Bordeaux.